Vous écoutez On lit pour vous.
Quand la culture crée des liens. Une chronique de Nathalie Collard publiée dans la presse du 24 mars 2026. Alors que les débats sur l'immigration et le déclin du français agitent la classe politique, des gens travaillent fort dans les coulisses pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants. Notre chroniqueuse a rencontré Julie Daferrière qui est mise sur la médiation culturelle pour redonner une parole à ceux qui ont vécu un déracinement. Début du texte. Recherchiste, chroniqueuse et animatrice, Julie Daferrière était bien connue dans le milieu de la radio et de la télé quand elle s'est inscrite au certificat en gestion des organismes à but non lucratif en culture à HEC Montréal. Citation. J'y suis allée à tâtons en me disant que c'était bon de garder la machine huilée, confie-t-elle. C'était vraiment par curiosité, mais je n'avais aucun plan. Fin de citation. Elle ne se doutait pas que ce nouveau chemin l'amènerait au carrefour de plusieurs dossiers chauds de l'actualité 10 ans plus tard. Mettons ça sur l'instinct de la fille des médias. À l'animation de séries documentaires sur TV5 Monde de 2013 à 2017, Julie a visité 45 pays en 4 ans. Ce tour du monde l'a profondément marqué. Citation. Les gens étaient tellement généreux, dit-elle. Ils nous laissaient entrer dans leur vie, dans leur cuisine. Je me disais que je ne reviendrais pas de là indemne, qu'il allait falloir faire quelque chose avec ça. Fin de citation. C'est une rencontre avec l'animatrice et musicienne Catherine Perrin qui aura été la bougie d'allumage pour la suite. Citation. Elle avait développé un projet, Les Multiples, où elle allait dans les classes de francisation adulte avec des musiciens et des artistes. Elle m'a demandé si ça me tentait d'essayer. J'ai eu une épiphanie. Mon tour du monde était devant moi. Fin de citation. Citation. Qu'est-ce que tu as compris? Fin de citation. En août 2023, Julie fonde la boîte « Ma parole » avec Lan Ang Vuong et Antoine Dion Ortega. Le projet Les Multiples en sera le vaisseau amiral. Aujourd'hui, en plus de Montréal, les ateliers sont offerts à Sept-Îles, Matane, Trois-Rivières, Québec, Joliette, Saint-Hyacinthe et Grimbé. Citation, on propose des activités avec la danse, l'impro, la musique et le théâtre, explique Julie. Par exemple, un duo de comédiens présente 3 courtes scènes de 3 minutes, Molière, Tremblay, Ionesco. Et entre chaque scène, il y a des échanges avec les élèves. L'idée n'est pas de faire un show de 40 minutes, mais d'échanger, de demander « Qu'est-ce que tu as compris? » Fin de citation. Comme Julie Laferrière, j'ai toujours été convaincu que la culture était la meilleure façon d'entrer en contact avec l'autre. Citation. On aborde les gens en classe de francisation en étant conscient qu'ils sont dans quelque chose d'intense, tant dans l'apprentissage que dans les raisons de leur départ, m'explique Julie. On travaille ensemble dans quelque chose de détendu. On ne vient pas là comme des clowns pour les divertir. La culture est un point d'ancrage pour enraciner la langue. Fin de citation. En finir avec l'autre. Au fil du temps, ma parole a développé d'autres projets très chouettes comme des parcours culturels qui font découvrir le quartier des spectacles, ses événements gratuits et ses institutions comme l'ONF. La boîte de médiation culturelle a aussi produit 4 saisons dans la vie de une série documentaire de 4 épisodes offerte sur Savoir Média. Citation, c'était un acte de foi de suivre 4 intervenants sur une année entière. Fin de citation, observe Julie Laferrière, qui n'avait pas prévu devenir productrice de documentaires un jour. Citation, mais, ajoute-t-elle, ce sont eux, les plus grands spécialistes pour parler de francisation. Fin de citation. Un projet comme celui-ci, réalisé par Edgar Fritz, vient justement briser le « nous et eux », croit la productrice et animatrice de la série. Citation, ils sont parfois heurtés d'être vus comme l'autre avant d'être vus comme quelqu'un. Maîtriser une langue est un acte extrêmement intelligent et ne pas avoir les mots pour affiner sa pensée est frustrant. Les arts permettent de parler à mot couvert de questions importantes. La plupart ne sont pas ici par choix, mais parce qu'ils sont déracinés par la guerre ou les enjeux climatiques. Fin de citation. Julie Laferrière. Dans la série, on suit donc le parcours de Ioan, entrepreneur d'origine roumaine, au Québec depuis 30 ans, d'Ali, iranien d'origine afghane, arrivé avec sa famille en 2022, d'Osana, d'origine mexicaine, établie dans les Laurentides avec sa famille, et de Tenkredia, d'origine congolaise, qui rêve d'être humoriste. Bonne nouvelle, la série sera intégrée dans les cours culture et société au secondaire, question d'ouvrir les jeunes à l'idée du vivre ensemble. Les experts, ce sont eux. Julie Laferrière m'assure que ma parole ne manque pas d'idées. Citation, dans 10 ans, je vois les multiples se déployer à la grandeur de la province et peut-être dans la francophonie au Québec, rêve-t-elle. Je vois aussi des projets de films, de co-création ou de théâtre documentaire. Fin de citation. À travers tous ces projets emballants, il y a le souhait de redonner aux nouveaux arrivants une parole qui leur revient, car, répète Julie Laferrière, ils sont les experts de leur propre expérience. Citation, « Je sais que j'ai peut-être l'air de faire de l'angélisme, ajoute-t-elle, mais on est devant des êtres qui ont autant le droit que nous à une vie digne. Nous avons simplement gagné à la loterie géographique. » Fin de citation. Et fin de cette chronique de Nathalie Collard, titrée « Quand la culture crée des liens », publiée dans la presse du 24 mars 2026.
Ses grands-parents accros à Temu. Un texte de Florence Tison, paru le 7 mai 2026 dans le magazine Urbania. Quoi de mieux que de piler sur une gogosse en plastique made in China pour se rappeler qu'on est bel et bien en vie un mardi matin. J'ai beau chercher, c'est pas mal le seul avantage que je trouve à ces bidules inutiles que les grands-parents aiment tant offrir à nos petits. Dans le temps, au moins, ça s'achetait dans un magasin québécois, fier fournisseur de bébelles colorées, petites voitures et autres porte-clés en forme de dauphin, le Dolorama. Plus maintenant. En 2022, Temu est arrivé comme une tonne de briques faux Lego. 200 petites grenouilles et un set de salon. Temu, c'est une application de magasinage qui vend à peu près n'importe quoi à des prix illusoires. Est-ce que la qualité y est? Non, mais ça n'a presque rien coûté, semblent se dire des milliers de grand-mères québécoises en offrant des jouets achetés sur Temu à leurs petits-enfants. Bien entendu, aucun d'entre eux ne figurait sur une liste de cadeaux de Noël ou d'anniversaire. Parlez-en à Anna, dont la mère adore magasiner sur Temu et débarque régulièrement avec des cadeaux pour sa petite-fille de 4 ans. Récemment, celle-ci s'est surpassée en matière de cadeaux parfaitement inutiles et encombrants. Elle sort un sac de grenouilles. Tu sais, quand tu appuies dessus pour qu'elle saute? Mais il y en avait comme 200. C'était un gros sac. Effectivement, 200 grenouilles pour une pièce, c'est tout un deal. Le problème, c'est qu'Anna se retrouve avec 200 grenouilles chez elle, en plus d'autres gugus qui s'ajoutent à chaque visite de sa mère. C'est toujours des affaires bizarres. Des bébelles comme un genre de boule qui fait du vent, ou une soucoupe volante qui se déplace quand tu mets ta main dessous, illustre Anna. À un moment donné, ça devient envahissant. Et la durée de vie de ces bébelles-là est assez limitée. Anna a beau en parler à sa mère, rien n'y fait. Temu fait maintenant partie de son ADN. Sa maison se transforme en maison Temu. Elle a même commandé des meubles de salon. Ces sofas, ce sont des meubles Temu, s'exclame la jeune mère. Des jouets carrément dangereux. Si ce n'était que ça. Anna se questionne aussi, avec raison, sur la toxicité des vêtements et des jouets faits en Chine et vendus par des plateformes comme Temu et Shein. Une enquête menée par le International Consumer Research and Testing, dont fait partie Protégez-vous, a révélé que 65% des produits vendus par Temu et la quasi-totalité des jouets testés ne sont pas conformes à nos lois. Qui plus est, ces plateformes se montrent peu enclines à envoyer des rappels lorsque des problèmes avec leurs produits leur sont signalés. Un tiers des jouets testés présentaient même des problèmes importants tels que des pièces qui peuvent blesser les enfants en raison de leur forme, arêtes coupantes, et ou de leur taille, généralement trop petite, et des jouets présentant des risques de suffocation. Des petites pièces qui se détachent, les enfants pourraient s'étouffer, des sons trop forts, des balles sensorielles ont atteint 115 décibels, soit l'équivalent du bruit produit par un marteau-piqueur, des vis qui tournent à vide, rendant les piles accessibles aux petits, une quantité de substances toxiques dépassant les limites permises au Canada. Source, protégez-vous. Comment Temu encourage la dépendance ? Selon un sondage réalisé en janvier auprès de 1011 adultes québécois, 35% des clients de Temu et de Shein y font des achats chaque mois. Ce n'est pas étonnant. En 2024, la BBC déclarait que Temu était aussi addictif que le sucre. L'application de magasinage utilise la ludification pour qu'une séance d'achat en ligne prenne des airs de jeu, avec des coffres mystères, des roues de la fortune et autres jeux relevant du pur hasard. Les consommateurs gagnent des points et des récompenses qu'ils peuvent échanger contre des produits. La stratégie marketing de Temu fait que vous devez parcourir l'application pour obtenir vos récompenses, explique le professeur en dépendance comportementale de l'Université de Nottingham, Trent Mark Griffiths. Avec ses promotions à durée limitée, l'excitation liée à l'incertitude des gains, les notifications constantes et le sentiment d'urgence provoqué par des mentions du type « presque épuisé », Temu présente un risque réel de dépendance et, accessoirement, d'achat impulsif. Temu a même intégré les jeux Farmland et Fishland, dont les noms rappelleront de mauvais souvenirs à ceux qui se sont fait inviter avec insistance à jouer à Farmville en 2008 par une tante sur Facebook. On dit que les ados sont accros à leur cellulaire, mais ma mère et la blonde de mon père, ce sont deux femmes de 60 ans qui jouent 20 minutes sur leur selle pendant un souper de famille pour gagner quelque chose sur Temu, déplore Olivier, lui-même père de deux enfants. Olivier aussi dit s'être ramassé avec des tonnes de jouets généreusement offerts par les grands-mères. À Noël, c'est devenu le running gag, souligne le jeune père. Ma mère ne prend même pas le temps d'emballer le cadeau, ça vient dans le sac de plastique transparent de Temu. La distribution de cadeaux n'est plus dans la joie, c'est comme « Ah, un cadeau Temu !» Ils se font fourrer. Temu réalise le tour de force de faire croire à ses utilisateurs qu'ils ont contourné le système. Anna explique la joie de sa mère lorsque Temu lui laisse gracieusement un article qui ne convenait pas ou lorsque la plateforme lui envoie par erreur trois supports à brosse à dents au lieu d'un seul. Elle est contente d'avoir des trucs gratuits, même si ce sont des bébelles, expose Anna. Les utilisateurs de Temu ont l'impression qu'ils fourrent le système, qu'il y a une faille et qu'ils s'en sortent gagnants. Ils se font fourrer. Les mécanismes de Temu peuvent modifier la perception et le comportement des utilisateurs face aux achats en ligne, mais en garde le site « jeux, aides et références ». D'ailleurs, quand un site dédié au danger des jeux de hasard et d'argent consacre un article à une application, c'est signe qu'il faut ouvrir l'œil. Les coûts du bas prix. Difficile de convaincre les grands-parents que Temu ne leur rend pas service. Anna et Olivier ont essayé, sans succès. Pourtant, les raisons de cesser d'utiliser Temu sont légion, dont son utilisation plus que douteuse des données bancaires et personnelles de ses utilisateurs. Une demande d'action collective a été déposée en 2024 à la Cour supérieure du Québec afin de poursuivre Temu et ses pratiques de collecte de données, telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la voix et la géolocalisation. En plus, des doutes ont été soulevés quant au versement de la TPS et de la TVQ dans les coffres de l'État par Temu, malgré que les consommateurs, eux, payent ces taxes. On parle à ma mère d'arrêter pour les données bancaires, pour ces infos, pour toute cette délicatesse qu'il n'y a pas nécessairement en Chine et pour les toxines qu'il peut y avoir dans les jouets, mais elle est accro, soupire Anna. Ça fait partie d'elle maintenant. J'en rajoute une couche ? Enregistrée à Dublin en Irlande, la plateforme appartient à l'entreprise chinoise PDD Holdings, dont l'adresse légale se situe aux îles Caïmans. Ses activités, elles, sont bien chinoises. Les zones de la Chine où sont fabriqués les produits vendus par Temu sont reconnues pour le recours au travail forcé des esclaves ouïghours, issus d'une minorité musulmane persécutée par le gouvernement chinois. Une enquête menée par le gouvernement américain a d'ailleurs révélé un risque extrêmement élevé que les produits vendus sur Temu soient exclus de l'esclavage. C'était « Ses grands-parents accros à Temu », un texte de Florence Tison, paru le 7 mai 2026 dans le magazine Urbania.
Voici pourquoi je paie toujours cash. Un texte de Perrine Grusson, paru le 24 avril 2026 dans le magazine Urbania. On nous chante son requiem depuis l'invention de la puce électronique. Le billet de banque, ce mince rectangle de polymère, serait une relique. Un anachronisme sale que les banques tentent d'euthanasier à coups de frais de gestion et de terminaux omniprésents. Dans certains commerces, on voit fleurir ces petits panneaux, paiement par carte seulement, comme si le simple fait de toucher de l'argent papier était devenu un acte de barbarie médiévale. Malgré tout, il refuse de mourir. Selon la plus récente enquête sur les modes de paiement de la Banque du Canada, les paiements effectués en argent comptant depuis 2020 représentent encore environ 20% du volume des transactions au pays, mais seulement 11% de leur valeur totale. La CEF, Association coopérative d'économie familiale de l'Est de Montréal, le confirme. Le recours à l'argent comptant est une situation de plus en plus rare. Lorsqu'il persiste, il est souvent motivé par des enjeux bien réels et compréhensibles, notamment aux habitudes de certaines clientèles ou encore à des préoccupations en matière de contrôle budgétaire ou de confidentialité. Lincoln, nom fictif, travailleur de 25 ans qui préfère garder l'anonymat, reçoit environ la moitié de ses revenus en argent comptant grâce au pourboire qu'il accumule comme livreur de pizza. « C'est vraiment plus facile de me budgéter comme ça. Quand je paie cash, je vois ce qui reste pour vrai. Avec une carte, tu fais juste taper, puis tu réalises après coup. » Vivant à quelques heures de la métropole, Sylvain-Claude Filion vit lui aussi dans un monde où la liberté est encore caractérisée par l'odeur du papier neuf. À 66 ans, le romancier se définit comme un homme de lettres et non de chiffres, qui souhaite rester incognito, commercialement parlant. Dès que c'est possible, il paie comptant et possède un mini-coffre-fort où il entrepose ses économies. À l'heure où un simple clic suffit pour geler un compte, Sylvain-Claude, lui, dort sur ses deux oreilles. Voir combien il reste physiquement parlant. Pour Sylvain-Claude, être écrivain, c'est en quelque sorte faire vœu de pauvreté. Les revenus arrivent parfois au compte-gouttes et leur gestion se doit d'être chirurgicale. Puisque rien n'est mieux à gérer sa propre réalité qu'un portefeuille qui s'amincit, sa première motivation est de l'ordre de la gestion budgétaire. Quand on fait ses courses avec de l'argent cash, on sait exactement quel est l'état de nos finances. L'idée, c'est de voir où part notre argent, en temps réel, explique-t-il. Pour des transactions par carte, on peut évidemment ouvrir son application bancaire, mais pour lui, c'est une déconnexion entre l'acte d'achat et la réalité du manque, en plus d'ajouter une démarche supplémentaire. Sa méthode est simple. À chaque dépôt dans son compte, il retire un montant en argent sonnant. Une fois le cash en main, il sait exactement ce qui lui reste. Selon Sylvain-Claude, un autre avantage lié au fait de payer comptant est celle de demeurer invisible, plutôt qu'une suite de données qui compile ce qu'il achète pour lui présenter des publicités ciblées. Je ne pense pas que ce soit être vieux jeu que de vouloir préserver ces données, lance-t-il. Une affaire de génération? Pas tant que ça. Sylvain-Claude semble avoir raison. Lincoln, un livreur de 25 ans, a le même réflexe, pour des raisons étonnamment similaires. Chaque semaine, il garde ses pourboires sur lui ou dans sa chambre et pige dedans pour ses petites dépenses du quotidien. Essence, take-out, etc. Si je veux augmenter mon salaire, il faut juste que je dépense moins. Je le vois direct dans mon portefeuille, déclare-t-il. Comme Sylvain-Claude, Lincoln évoque aussi la question des traces. « J'aime ça payer sans que ça soit traqué », mentionne celui qui se décrit comme un frugaliste des finances. Cependant, s'il apprécie son milieu de travail et ce qu'il lui rapporte, il annonce qu'il compte bientôt voguer du côté des milieux bancaires. Est-ce qu'il utilisera autant l'argent comptant? Je vais en utiliser moins, c'est sûr, mais pour les dépenses du quotidien, ça reste le plus efficace. Je conseille à tous les étudiants de fonctionner comme ça. Lincoln admet cependant que ce système a ses limites. Si tu gardes 20 000 $ dans ta chambre, pendant ce temps-là, ton argent ne s'investit pas et ne fructifie pas, lance-t-il. Payer sans éveiller les soupçons. Payer comptant est toutefois une liberté qui a un prix, celui d'avoir l'air suspect. Il y a quelques années, Sylvain Claude a soulevé un tollé chez les employés d'un magasin d'électroménager en payant sa laveuse sécheuse avec des billets de 100. Ils ont essayé de cacher leur malaise, s'amuse-t-il. Pour Sylvain Claude Filion, l'argent comptant est une valeur refuge, un espace de liberté et la garantie qu'il pourra toujours trinquer au jour de l'an, peu importe l'humeur des serveurs informatiques. C'était « Voici pourquoi je paie toujours cash », un texte de Perrine Grusson, paru le 24 avril 2026 dans le magazine Urbania.
Cette île rêve d'une base navale de la marine canadienne. Un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 28 mai 2026 dans Le Devoir. Cette île sonne le clairon à l'idée que la marine canadienne installe une première base navale en terre québécoise sur son territoire. La ville de la Côte-Nord a tous les atouts pour abriter une partie de la flotte canadienne, selon son maire, Benoît Méthotte, qui y voit également un moteur de diversification économique. En février 2026, le vice-amiral Angus Topshee, plus haut gradé de la marine royale canadienne, soulignait dans les pages du Devoir son intérêt pour implanter une première base navale dans le golfe du Saint-Laurent, au Québec ou au Nouveau-Brunswick. Il s'agirait d'un moyen, selon lui, de contrer la sous-représentation des francophones dans les métiers de la mer, mais aussi de défendre les intérêts stratégiques du pays face aux menaces russes ou chinoises. Le vice-amiral Topshee a évoqué certaines villes du Québec maritime comme Rimouski et Baie-Comeau, mais cette île doit également être considérée, plaide le maire Méthotte. Notre plus gros avantage, c'est notre port en eau profonde qui est accessible à l'année. Il y a de la place pour le développement. On n'est pas congestionné comme on peut l'être ailleurs, souligne-t-il. Le port de cette île, plus important port minéralier d'Amérique du Nord, a accueilli en 2025 près de 600 navires qui y ont transbordé plus de 40 millions de tonnes de marchandises, en majorité du fer et des produits de l'aluminium. Sur son site web, l'institution indique que 200 hectares de terrains industriels sont disponibles. On parle du besoin de protéger nos territoires, nos côtes et le Nord. Géographiquement, on est là, ajoute le magistrat. Notre sélection des contenus les plus marquants du mois, une fois par mois, dans votre boîte courriel. Voir plus d'infolettres. J'accepte de recevoir les communications par courriel du Devoir. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien de désinscription au bas d'un de nos courriels. politique de confidentialité. Il pointe également un avantage linguistique de sa ville. On est évidemment une communauté francophone, mais on a aussi une bonne population anglophone et un réseau scolaire anglophone jusqu'au cégep, si les enfants de militaires veulent étudier ici. Monsieur Method, élu pour un premier mandat en novembre 2025, souligne aussi que la ville accueille déjà une division de la réserve navale. On a déjà une certaine affinité avec la marine, dit le maire. Pendant la guerre froide, le secteur moisi de cette île a été l'hôte d'une base radar des forces armées canadiennes. Désaffectée depuis 1988, elle est depuis devenue une zone résidentielle. Plus vite que prévu? Le conseil municipal a adopté en mars 2026 une résolution vantant les avantages de cette île comme port d'attache de la Marine royale canadienne. Une copie a notamment été transmise à la Défense nationale. Si, de l'aveu même du maire, le projet est encore embryonnaire, il pourrait se réaliser plus rapidement qu'on le croit. Normalement, je dirais qu'un projet comme ça se fait sur 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au point de vue géopolitique et tous les investissements qui sont faits en défense, peut-être que ça peut être fait plus vite, croit Benoît Method, citant la volonté du gouvernement Carney d'investir massivement dans le domaine. Le nouveau maire de cette île y voit aussi un outil de diversification économique dans une ville dont le sort a toujours été intimement lié aux aléas de l'industrie minière. Ce serait un parfait exemple de diversification. Avec une base, on ne serait pas dans les ressources naturelles, mais plutôt dans la protection de notre territoire et de nos ressources, dit-il pour nuancer. C'était « Cette île rêve d'une base navale de la marine canadienne », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 28 mai 2026 dans Le Devoir.